Ce n'est pas un chant que nous venons de chanter, c'est un programme, un grand programme, un programme d'un, pas un programme politique. Je regarde Jean-Luc là, puis je pense à la politique tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un programme pour un peuple qui est debout, pour un peuple qui est en marche, pour un peuple qui ne dit pas « je crois seulement », mais « je marche, je suis ouvrier, je suis constructeur ». Je suis bâtisseur, je suis quelqu'un qui vient apporter la vie, la paix, la joie, là où je vais. Ça veut dire qu'il y a des choses à laisser tomber en même temps. Quand nous chantons un chant comme ça, à quelque part, je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose qu'à moi. Moi, ça me fait envie d'être un bâtisseur. Ça me fait envie d'être un ouvrier de paix. Ça me fait envie d'être tout ce qui est dit dans cette prière, parce que c'est vraiment une vie pleine. C'est vraiment ça, la vie que le Seigneur veut pour nous. Alors ça fait presque un peu peur, mais en même temps c'est la vie. Être des ouvriers du Seigneur, être des constructeurs avec le Seigneur. Alors maintenant nous allons passer au message, crois-je, qui va nous amener aussi à réfléchir à tout cela, mais pour un peuple en marche. Tu veux venir, Andreas, on va prier. Seigneur, merci parce que ce n'est pas une religion simplement que tu es venu apporter, mais c'est vraiment une vie nouvelle, avec un programme nouveau, avec des choses magnifiques et merveilleuses, et tu veux un peuple en marche. Je te bénis, Seigneur, pour cela, parce que par ton esprit, tu veux nous le donner. Et je te prie maintenant pour ce message que nous allons entendre. Je demande, Seigneur, qu'il vienne nous donner de la force, de l'énergie, et aussi des pistes de travail et de réflexion, pour que nous soyons de vrais ouvriers. Merci de bénir Mathias qui nous l'apporte. Merci de protéger aussi sa famille, de garder sa famille. Je demande dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Dans notre série de prédications autour de la personne de Jésus, nous arrivons aujourd'hui au cœur de son message. Qu'est-ce qui constitue ce cœur? Andreas a déjà nous donné la réponse, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. Mais sans doute une des réponses les plus pertinentes est de dire que Jésus nous a donné le cœur de son message dans le serment sur la montagne. Dans son livre, « Ce Jésus que je ne connaissais pas », Philippe Yancey écrit à ce propos: Jésus délivra son célèbre serment au moment où sa popularité atteignait des sommets. Les foules le suivaient partout où il se rendait, obsédées par la question « Le Messie est-il enfin arrivé ?» À cette occasion inhabituelle, Jésus mit ses paraboles de côté et gratifia son public d'une philosophie de vie digne de son nom, Un peu à l'instar d'un candidat politique dévoilant un nouveau programme. Et quel programme ? Maintenant, si nous essayons de saisir tout le contenu de ce programme, nous avons d'abord le problème que c'est assez long comme texte. Si nous essayons de lire tout le serment sur la montagne ce matin, tout de même trois chapitres dans l'évangile de Matthieu, nous risquerons d'oublier le début de la lecture bien avant d'arriver à sa fin. En tout cas, à moi, ça m'arriverait. Ce qu'il nous faudrait, ça serait une sorte de formule qui nous donne un résumé compact du serment sur la montagne, mais qui néanmoins tient compte de la richesse et de la diversité des sujets abordés. Or, la découverte encourageante que j'ai faite en préparant cette prédication, c'est que nous n'avons pas à inventer une telle formule, car elle existe déjà. Elle se trouve au milieu du sermon sur la montagne lui-même. Et le mieux est que nous la connaissons déjà tous par cœur. Je vous donne du temps à réfléchir ce que ça pourrait être, parce que je dois chercher le truc là. Alors, ces formules, voici. Ça vous paraît familier, j'espère. Il y a juste une petite différence entre cette formule et le Notre Père, comme nous le connaissons, c'est qu'il manque la dernière phrase. Et effectivement, il paraît que dans les plus anciens manuscrits de l'évangile de Matthieu, on a cette version-là, sans la dernière phrase. Et je vais essayer de vous montrer que si on prend cette version-là, on trouve une correspondance assez frappante entre la structure du Notre Père et la structure de tout le sermon sur la montagne, tel qu'il nous est transmis dans l'évangile de Matthieu. Dans notre lecture d'aujourd'hui, nous allons donc parcourir à grands pas les trois chapitres du sermon sur la montagne, ce qui va forcément nous empêcher d'entrer dans les détails. Mais j'espère que ça va nous aider à voir les grandes lignes de cet enseignement extraordinaire. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux détails, j'aimerais simplement vous rappeler qu'on a eu toute une série de prédications sur les sermons sur la montagne, ici à Villars, entre août 2012 et mars 2013. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une équipe de notre église qui fait un super boulot pour mettre toutes les prédications et les résumés à disposition sur les sites web. C'est un véritable trésor digital. Le sermon sur la montagne commence avec ce qu'on appelle les béatitudes. Nous y lisons par exemple « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Ce n'est pas un accident que deux des béatitudes mentionnent les cieux, tout comme le début du Notre Père. En effet, je pense que la compréhension de ce que sont les cieux est essentielle pour une compréhension adéquate des béatitudes. Une lecture superficielle pourrait voir dans les béatitudes rien qu'une simple justice compensatoire. Cette lecture pourrait même être encouragée par le pendant négatif des béatitudes qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Malheur à vous, riches, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes, dans Luc 6. Cette idée évoquerait l'image d'un Dieu qui calcule pour établir la justice. Ah, tu es riche et heureux maintenant? Attends, je vais te faire souffrir dans l'au-delà. Et toi, tu es malheureux? Pauvre car, je te donnerai un joli bonbon quand tu arriveras chez moi. Bon, je ne veux pas dire que l'idée d'une récompense future est sans valeur, mais il me semble qu'on trouve une vérité bien plus profonde dans les béatitudes. Si on comprend les cieux, non seulement comme une idée réconfortante, mais comme une réalité bien plus robuste que la réalité matérielle dans laquelle nous vivons maintenant. Cette réalité céleste fonctionne selon des principes complètement différents que notre monde actuel. Le reste du sermon parlera davantage de ces principes. Par conséquent, les choses qui sont estimées et qui rendent les gens heureux dans le monde actuel, le succès, le prestige, les richesses, ça diffère de ce qui compte dans le monde à venir. C'est pour ça que les heureux seront malheureux. Ce qu'ils ont couru après pour toute leur vie et ce dont dépendait leur bonheur n'aura plus aucune valeur dans cette nouvelle réalité. Par contre, ceux qui s'orientent déjà maintenant vers les cieux et qui, pour cette raison, reconnaissent leur pauvreté devant Dieu ou sont persécutés dans un monde qui méprise la justice, ils seront heureux, car leurs principes de vie sont en harmonie avec la réalité ultime. Que ton nom soit sanctifié. Je vous ai proposé tout à l'heure de regarder le Notre Père comme un résumé du Sermon sur la montagne. Mais ça implique aussi que le Sermon sur la montagne peut nous aider à mieux comprendre les différents éléments du Notre Père. J'avoue, par exemple, que je n'ai pas une idée très claire sur ce que ça veut dire « que ton nom soit sanctifié ». Pour rendre cette notion plus concrète, j'ai trouvé utile de regarder la deuxième partie du Sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est la connexion entre la gloire de Dieu et notre comportement en tant que ses enfants. Comment le nom de Dieu est-il glorifié, honoré ou bien sanctifié? Quand nous faisons le bien en sorte que notre lumière brille devant les hommes. Rappelons-nous ce fait la prochaine fois que nous prions le Notre Père. D'ailleurs, ce lien entre ce qui concerne Dieu et ce qui concerne notre manière d'agir est absolument crucial pour tout le sermon sur la montagne. Nous y reviendrons encore. Mais d'abord, nous touchons à une question qui était probablement celle qui intéressait le plus le public initial du Sermon sur la montagne. Et elle est liée au règne, ou bien au royaume de Dieu. Dans un contexte juif, si on parle d'un règne venant, il est entendu qu'on parle du règne du Messie promis. Or, il y a ici ce rabbin qui s'appelle Jésus, qui enseigne avec une autorité étonnante et de qui on dit qu'il fait des miracles comme aucun autre. Est-ce peut-être le sauveur promis? Mais en même temps, il a ce comportement qui ne se conforme pas du tout à ce qu'on attend de quelqu'un qui est censé rétablir le règne de David et la loi de Moïse. Alors Jésus, dis-nous, quel est ce règne dont tu parles? Et comment est-il connecté au règne que nous connaissons, décrit dans la loi et les prophètes? Voici la réponse de Jésus. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous voyons ici les deux éléments dont a parlé notre frère Jean-Jacques Mélan il y a un mois, tout au début de cette série de prédications, sur les sujets des racines juives de Jésus. Nous voyons d'abord l'appartenance de Jésus au judaïsme. Je ne suis pas venu pour abolir. Mais nous voyons aussi une certaine rupture quand il dit à ses disciples d'obéir à la loi mieux que l'élite religieuse de son temps. Ça veut dire que la simple conformité aux règles de la loi n'est pas ce qui compte dans le nouveau royaume. Jésus explique davantage ce que ça veut dire dans la partie suivante de son sermon. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette partie, nous trouvons les commentaires de Jésus sur quelques commandements de la loi juive. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis. Dans ses propos, Jésus nous montre le sens profond de la loi, qui va bien au-delà de simplement nous donner quelques règles qui permettent une cohabitation paisible entre les gens. Il ne s'agit pas simplement d'empêcher le meurtre, l'adultère ou les serments non tenus, mais de nous engager à un style de vie empreint de paix, d'amour et de fidélité. Autrement dit, une vie qui manifeste sur terre ce qui caractérise notre Dieu au ciel. Regardons de plus près un de ces commentaires. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». D'ailleurs, cette deuxième partie de la phrase ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Jésus fait probablement référence à une tradition orale de l'époque. « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. » Ouh là là, être parfait comme Dieu, c'est, au sens propre du terme, un sacré défi. Il y a ici le danger que ça nous amène à un nouveau légalisme ou un perfectionnisme malsain. Jésus va encore parler de ce danger vers la fin du sermon sur la montagne. Mais nous voyons déjà dans le passage que nous venons de lire que la grâce de Dieu dépasse notre manque de perfection. Nous avons un Dieu qui accorde ses bénédictions aux justes comme aux injustes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous vous demandez peut-être pourquoi je regroupe tout le chapitre 6 de Matthieu sous l'idée du pain de ce jour. C'est vrai que ce chapitre parle de toutes sortes de choses, non seulement du pain quotidien. Mais il y a un thème qui tient ensemble tout le chapitre. C'est la différence entre nos vrais besoins et nos faux désirs. Ça commence par notre désir d'une bonne réputation. Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Puis ça continue par nos désirs des biens matériels. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis le chapitre finit avec la promesse que Dieu connaît nos vrais besoins matériels et qu'il va les satisfaire. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Dans son livre, Philip Yancey nous donne une illustration magnifique de cette différence entre nos désirs et nos vrais besoins. J'aimerais vous lire cet extrait qui me parle beaucoup, parce qu'il porte sur un de mes propres désirs, à savoir travailler dans une université prestigieuse. Yancey nous raconte l'histoire de Henry Nouwen, un prêtre qui a quitté un poste d'enseignement à l'université de Harvard afin de s'occuper de son ami Adam, un homme de 25 ans gravement handicapé, incapable de parler, de marcher sans assistance, de manger sans aide. Henry Nowen passait alors une bonne partie de ses journées à côté d'Adam, à le laver, le raser, lui donner à manger, lui administrer ses médicaments, etc. Et voici ce que Philip Yancey écrit. Je rendis visite à Nowen à Toronto et je l'observais tandis qu'il effectuait ses tâches routinières auprès d'Adam. Je dois bien reconnaître que je doutais alors qu'il s'agisse de la meilleure façon pour lui d'utiliser son temps. J'avais déjà entendu Henry Nowen s'exprimer et j'avais déjà lu bon nombre de ses ouvrages. Il avait beaucoup à offrir. Quelqu'un d'autre aurait très bien pu assumer les soins pénibles nécessités par Adam. Mais quand j'abordais prudemment le sujet avec Nowen lui-même, il m'informa que je n'avais pas du tout compris ce qui se passait. « Je ne renonce à rien du tout », insista-t-il. « C'est moi, et non Adam, qui tire le plus grand enrichissement de notre amitié. » Puis Nowen m'exposa tous les avantages de la situation. « Les heures passées avec Adam, dit-il, lui procurait une paix intérieure à ce point satisfaisante que la plupart de ses autres tâches, plus nobles, paraissaient ennuyeuses et monotones en comparaison. Très vite, lorsqu'il prit place aux côtés de cet homme-enfant complètement démuni, il comprit combien sa course au succès dans les salles de cours et le ministère chrétien était caractérisée par la rivalité et la compétition. Adam lui apprit que ce que nous rend humains n'est pas notre esprit, mais notre cœur. Non pas notre capacité à penser, mais notre capacité à aimer. Dans la nature simple de Adam, il avait aperçu le vide de l'âme nécessaire pour pouvoir se laisser remplir par Dieu. Le genre de vide que les ermites atteignent seulement après une quête intense et une grande discipline. Pendant tout le reste de notre entretien, Henry Nowen revint sur ma question, comme s'il ne pouvait croire que je puisse demander une telle chose. Il songeait sans cesse à d'autres illustrations de la façon dont il était enrichi par sa relation avec Adam. Il connaissait véritablement un nouveau type de paix spirituelle, acquise non pas au sein des imposants amphithéâtres de Harvard, mais au chevet d'un homme incontinent. J'ai quitté ce lieu coupable et conscient de ma propre pauvreté spirituelle, moi qui organise si soigneusement ma vie d'auteur afin de la rendre plus efficace et plus égoïste. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ayant suivi le serment sur la montagne jusqu'à ce point, nous ne pouvons qu'admettre que notre manière de vivre ne correspond pas du tout à ce que Jésus décrit comme le comportement des enfants de Dieu. Le serment sur la montagne est-il alors simplement une nouvelle loi, encore plus sévère que la loi de Moïse, qui nous condamne de nouveau? Regardons ce que le texte dit à ce sujet. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Maintenant, on pourrait comprendre ce « vous serez condamné » comme quelque chose que Dieu veut faire, comme s'il attendait seulement de nous voir condamner les autres pour ensuite nous condamner nous-mêmes. Mais si nous nous souvenons du principe que nos actes devraient refléter le caractère de Dieu, nous arrivons à une compréhension tout à fait différente. Jésus nous dit de ne pas condamner, justement parce que l'acte de condamner contredit le caractère de Dieu. Ce qui caractérise notre Dieu, ce n'est pas la condamnation ou le jugement, mais au contraire, le pardon, la grâce, la bénédiction. Ou bien l'amour. J'étais frappé ce matin à voir que ce thème de l'amour de Dieu a parcouru tout notre culte dès l'introduction, à travers les chants, les prières. Je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous révéler spécifiquement ce matin. Et cette grâce et cet amour se montrent clairement plus tard dans ce même passage, où il est écrit « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? En même temps, notre dépendance de la grâce et du pardon de Dieu ne doit pas nous rendre passifs. C'est vrai que Dieu, par sa grâce, ne nous soumet pas à la tentation et il nous délivre du mal. Mais cette délivrance n'est pas quelque chose qui se passe en dehors de nous, sans notre participation. C'est notre cœur et notre manière d'agir qui doivent changer. C'est pourquoi Jésus conclut son serment en nous mettant en garde contre les faux prophètes, qui se donnent une apparence religieuse, mais dont le comportement ne reflète pas le cœur de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire leurs actes. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » On pourrait dire que ce texte parle d'une tentation spécifique. C'est la tentation d'une religiosité vide qui ne se montre pas à nos fruits. Le cœur du message de Jésus est à la fois libérateur et exigeant. Le serment sur la montagne nous présente un Dieu plein d'amour et de grâce. Mais il nous présente aussi cette drôle d'idée que l'amour et la grâce de Dieu veulent se manifester dans nos vies, ce qui demande un changement profond dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à nous comporter vraiment comme des enfants de notre Père céleste. Amen.